L'Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission enregistrée le 10 novembre, ce qui d'ailleurs me conduit à vous dire que la semaine prochaine, l'émission de la semaine prochaine, celle du 20 novembre, sera en public et en direct au studio 105 de la Maison de la Radio et que toute personne qui souhaite y assister peut s'inscrire sur le site www.maisondelaradio.fr. Nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, avec Thierry Pêche, directeur général de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser non pas à la motion de censure qui a été votée contre le gouvernement estonien, bien que c'est un sujet sur lequel peut-être nous ne dirions pas moins de sottises que sur d'autres, mais au moins cela ne serait pas remarqué. Nous commencerons par nous intéresser à la situation aux États-Unis et à l'élection de Donald Trump. Le républicain a été élu mardi 45e président des États-Unis. Cette victoire de l'homme d'affaires de 70 ans, jugée inenvisageable par la quasi-totalité des sondages, est le résultat de l'échec de sa concurrente démocrate Hillary Clinton, qui n'a pas pu s'imposer dans les États pivots comme la Floride, l'Ohio, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie. Les premières estimations du scrutin, les premières analyses du scrutin font état d'un important soutien des classes blanches populaires à Donald Trump, ainsi que les minorités ethniques et les jeunes électeurs qui se sont moins mobilisés que lors des dernières élections de 2008 et 2012. Le président élu a exprimé devant ses supporters sa volonté d'être le président de tous les Américains. Il a réaffirmé son projet de reconstruire la nation et de relancer le rêve américain. Hillary Clinton s'est dite prête à travailler avec Donald Trump au service d'un pays plus divisé qu'elle ne le pensait, ce sont ses propres mots. Barack Obama a félicité son successeur et appelé à une transition apaisée. Cette victoire du camp républicain à la présidence est confirmée à l'échelle du Congrès, alors que les électeurs étaient aussi appelés à renouveler la Chambre des représentants et le tiers des membres du Sénat. Le président du Parti républicain s'est réjoui qu'avec un Congrès républicain bien en place et Donald Trump à la Maison-Blanche, il soit possible de se mettre au travail pour réparer Washington. Cette configuration ouvre la voie à la nomination d'un juge conservateur à la Cour suprême, en remplacement d'Antonin Scalia, décédé en février 2016, alors que Donald Trump a pris position contre l'avortement et le mariage homosexuel durant sa campagne. Le résultat du scrutin a provoqué des réactions contrastées. Parmi les dirigeants étrangers, François Hollande a félicité Donald Trump, comme il est naturel entre chefs d'État démocratiques, a-t-il dit, tout en évoquant l'ouverture d'une période d'incertitude. Et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a évoqué un défi pour l'Europe posé par un président élu dont les propos provoquent des inquiétudes. Le président russe Vladimir Poutine a exprimé son attente d'un travail mutuel pour sortir les relations américano-russes de leur situation critique. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a salué l'élection, je cite, d'un véritable ami d'Israël, et le président turc Erdogan a salué, lui, le début d'une nouvelle ère aux États-Unis. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Philippe, vous me mettez sur la sellette, et en me mettant sur la sellette, vous me forcez à me couvrir la tête de cendre, puisque je reconnais avec humilité que j'ai fait partie de la grande foule, je dois dire assez bien fréquentée, malheureusement, d'experts ou prétendus tels qui ne pensaient pas cette victoire possible. J'avais même expliqué à ce micro pourquoi l'arithmétique du collège électoral rendait les choses compliquées. Ces explications restent vraies, mais ce qui l'est encore plus, c'est que M. Trump a démenti toutes les prédictions en faisant basculer de son côté un grand nombre d'États qui avaient voté démocrates de façon continue depuis 25 ou 30 ans, depuis les 6 dernières élections présidentielles. Madame Clinton a échoué pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on peut revenir, mais si on regarde simplement l'arithmétique électorale, elle n'a pas su emporté la victoire dans les principaux États clés, les swing states, la Floride, l'Ohio, la Caroline du Nord, qui lui étaient nécessaires, lui ont échappé et ont voté pour Trump. Et Trump a en outre fait basculer de son côté, ce que beaucoup ne pensaient pas possible, des grands États comme la Pennsylvanie, comme le Michigan, comme le Wisconsin, qui étaient des États qui ont voté, ces trois-là notamment, ont voté continuellement démocrate depuis 1992, pendant les 6 dernières élections présidentielles. C'est-à-dire l'ampleur du basculement, l'ampleur de la surprise et l'ampleur de la victoire de M. Trump, qui est une victoire solide. Alors, il y a une singularité, c'est que comme M. Bush en 2000, qui avait moins de voix, finalement, nationwide, comme on dit, que M. Gore avait 550 000 voix de plus que Bush, cette fois-ci, M. Trump a 180 à 200 000 voix de moins qu'Hillary Clinton. Mais en termes de grands électeurs, il arrive très largement en avance et il a une victoire d'autant plus solide que la victoire républicaine, vous l'avez dit, est consolidée au Congrès, à la Chambre des représentants et au Sénat, dont la majorité n'a pas basculé, et que dès qu'il sera au pouvoir, grâce à ce Congrès, il aura la possibilité de compléter la Cour suprême, qui a une vacance pour l'instant, en y nommant un juge qui fera pencher la Cour suprême du côté conservateur. Monsieur Trump va donc contrôler les trois branches du pouvoir aux États-Unis. Alors, les premières réactions que l'on peut avoir sont d'abord la réaction de surprise, je viens d'en parler, et l'ampleur de la défaite d'Hillary Clinton et des démocrates. Il faut quand même le souligner. Madame Clinton rejoint le camp assez peu nombreux des candidats qui ont échoué deux fois à l'élection présidentielle. Elle a échoué en 2008, elle a de nouveau échoué en 2016. C'est évidemment la fin de sa carrière politique, ça va de soi. Elle a fait une mauvaise campagne, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, y compris dans son camp. Elle manque de charisme, elle n'est pas un bon orateur ou une bonne oratrice, je ne sais pas comment il faut dire. Elle a été emberlificotée dans ses problèmes d'email, de compromission avec la fondation Clinton, avec Wall Street et avec les milieux financiers. Et puis, les Américains ont montré l'ampleur de ce qu'on appelle là-bas la Clinton fatigue, c'est-à-dire la lassitude à l'égard du clan Clinton qui domine totalement la vie du Parti démocrate depuis une trentaine d'années. Ça aurait peut-être été une bonne présidente, c'était en tout cas une mauvaise candidate et la preuve est apportée. Alors au passage, interrogeons-nous sur les raisons pour lesquelles le Parti démocrate, qui ne manque pas de talent, n'a pas produit d'autres candidates que Mme Clinton finalement et la façon dont le clan Clinton avait préempté en quelque sorte cette élection. Il est quand même tout à fait extraordinaire qu'elle n'ait eu qu'un seul opposant, qui était un sénateur de 74 ans, à peu près inconnu, et qui lui avait d'ailleurs damé le pion très sérieusement pendant les primaires. Donc, au-delà de la surprise, puisque vraiment tous les pundits, comme on dit, tous les experts se sont trompés, la presse, les médias, l'establishment se sont complètement trompés et ne croyaient pas possible une victoire de Trump, il faut bien voir que cette victoire est un tremblement de terre en soi, parce qu'il a renversé la table. Il a renversé la table, il l'emporte contre l'establishment, contre Washington, contre tous les dogmes bien établis, et dans une certaine mesure contre le Parti républicain, parce qu'il ne faut pas oublier la façon dont il l'a emporté à la hussarde, contre 16 autres candidats républicains dans les primaires, et la façon dont beaucoup de chefs, de caciques du Parti républicain s'étaient détournés de lui ou ne voulaient pas l'appuyer. Alors au-delà de ce saut de ça, alors c'est un tremblement de terre aussi parce que il a défendu pendant la campagne des thèses qui sont quand même très très novatrices, le rejet de la globalisation, la traduction de la colère du peuple américain qu'il a porté au pouvoir et notamment de cette classe dont on a beaucoup parlé, des angry white men, c'est-à-dire la classe moyenne blanche défavorisée et les laissés pour compte de la croissance, se traduit par des prises de position très très incendiaire et accompagné de quelques outrances, le rejet de la mondialisation, le rejet du libre-échange, le rejet de l'immigration et le rejet finalement de la continuation d'un certain nombre d'alliances tranquilles dont il va vouloir complètement rénover le fonctionnement et peut-être même la structure.
Nicole Desautos. Oui, c'est un tremblement de terre, mais je crois surtout que la victoire de Trump, c'est la défaite de notre propre vision du monde. Et il n'a pas simplement renversé la table. Ils ont renversé un monde, et je crois que c'est bien au-delà de la classe des petits blancs américains un peu marginalisés par la mondialisation. Moi, je voudrais dire quand même, nous sommes dans un monde aujourd'hui où le pire est possible. Je me souviens avoir dit à ce même micro il y a un an que trois catastrophes nous menaçaient, le Brexit, la victoire de Trump et l'élection de Marine Le Pen. Et je disais, il y en a au moins un qui se passera. On en a deux, et moi je voudrais dire que le troisième est peut-être possible, et que donc la victoire de Trump doit vraiment nous amener à réfléchir sur ce qui ne va pas dans notre système. Et je crois qu'il y a une lame de fond profonde qui traverse pas seulement les États-Unis, mais l'ensemble de l'Occident développé, industrialisé, qui n'est pas une idéologie particulière, qui est simplement le refus d'un système qui a échoué sur le plan économique et qui a échoué sur le plan de la sécurité. Et je crois que Trump a parfaitement capté la colère, le désarroi d'une classe moyenne, d'une immense classe moyenne américaine qui veut simplement en finir avec ce système. Je crois qu'il y a quelque chose comme une sorte de mai 68 à l'envers. Mai 68, c'était une révolution de jeunes, de gauche, qui avait une perspective de prospérité évidente dans les années 60. Là, on a une révolution de blancs plutôt âgés qui ont une perspective de paupérisation évidente dans les années 2020. Et on a ceci, je crois qu'ils ont fait une révolution. Alors, ils ne coupent pas les têtes, mais ils coupent un système. Ils ne cassent pas du flic, mais ils cassent de l'élite. Et je crois que la vague est contagieuse. C'est mon deuxième point. Cette vague, elle est déjà là en Europe. C'est une vague contre une mondialisation sans contrôle et contre une démocratie sans peuple. Je crois que c'est les deux thèmes véritablement que captent aujourd'hui les électeurs de Trump et tous les mouvements d'extrême droite en Europe. Une mondialisation que personne ne contrôle, surtout pas les élites au pouvoir, et une démocratie représentative certes, mais qui oublie qu'il y a un peuple. Et je crois que là vraiment, c'est un message très sérieux à la classe politique française et à la classe politique européenne pour comprendre. Je voudrais dire un deuxième point sur l'Europe, si je puis. Philippe, indépendamment de cette réflexion générale, je crois que pour l'Europe, la crise transatlantique est devant nous, mais que ça peut être une crise salutaire. Ce que dit Trump, il représente pour les Européens le pire cauchemar, c'est-à-dire une décision par les États-Unis d'abandonner les Européens, ou en tout cas de leur demander de prendre en charge eux-mêmes leur propre destin, leur propre sécurité. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire, mais il y a, je crois, de la part des Européens, aujourd'hui, un carrefour. Soit les Européens comprennent que l'Amérique n'est plus le protecteur systématique qui paiera pour tout le monde, en toute occasion, et à ce moment-là, ils se ressaisissent et ils créent véritablement une identité, voire une puissance européenne, une diplomatie européenne, une défense européenne. Soit, et le paradoxe serait que l'Amérique de Trump aurait été l'aiguillon de l'Union de l'Europe, soit le pire est là aussi devant nous, c'est-à-dire qu'on a une course de vitesse de chacun de nos nations vers l'aile américaine pour essayer de se protéger bilatéralement auprès des États-Unis, et là on a véritablement la fin du monde.
Je crois que Nicole a raison de mettre la barre assez haut dans l'évaluation de la gravité des événements. Je pense qu'il y a, comme il y a eu un cycle atlantique des révolutions libérales au XVIIIe siècle, il y a devant nous un cycle atlantique de perturbation de notre espace politique, de notre Pacifique, on verra. Oui. En tout cas, Atlantique, c'est sûr, Brexit, Washington et demain Paris, pourquoi pas. Ce sont des espaces qui ont suffisamment de communauté d'esprit, de dialogue, de débat, de réflexion, de valeurs et d'idées pour être assez synchronisés dans leur crise et pas simplement dans leurs aspirations. Et je pense qu'en effet, derrière le succès de Trump, il n'y a pas simplement, parce qu'on s'est tous trompés d'une certaine façon ces derniers mois. Moi, j'ai eu la chance de ne pas participer à vos deux dernières émissions, donc je n'ai pas eu à m'exprimer sur le sujet. Mais j'aurais fait probablement comme François, je n'aurais pas cru un instant à la victoire de Trump. Donc on s'est beaucoup trompé, beaucoup illusionné.
François se sous-estime. Il avait été beaucoup plus prudent qu'il ne le dit.
Heureusement. Ça, c'est bon pour l'historiographie. On s'est beaucoup trompé fondamentalement. Et il faut réfléchir, il faut aussi faire de l'autocritique et de l'examen critique. Pourquoi on s'est trompé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? C'est important de s'y arrêter. Ce qu'on n'a pas vu, je crois fondamentalement, c'est l'effondrement culturel des élites occidentales, et pas simplement américaines et britanniques. Je pense que Nicole a raison de dire que ça vaut aussi pour nos élites. Un double effondrement, parce que c'est à la fois une défaite des élites devant les classes populaires et une défaite des élites dans l'espace politique. C'est-à-dire c'est une défaite des élites dans leur capacité à dominer la société et à dominer le débat, la parole sur la société. Et c'est ça qui est très préoccupant, si vous voulez, dans l'affaire américaine. C'est que les perdants, effectivement, de la mondialisation, les classes moyennes... Alors, il y a des spécificités américaines. Hein. C'est vrai que les classes moyennes américaines se sont effondrées depuis 20 ans, comme nulle part ailleurs. Hein. On n'a pas le même phénomène en France, même si on a des peurs de déclassement, etc. Il n'y a pas cet évidement du centre de la société comme on l'observe aux États-Unis. Les conditions d'emploi, les qualités d'emploi. On n'a pas les élites américaines n'ont pas prêté attention à ça. Elles ont été le fer de lance d'une société ouverte, d'une mondialisation dérégulée, de fait. Et le boomerang leur revient aujourd'hui dans la figure. Deuxième défaite, leur capacité à dominer l'espace public. Je crois qu'il faut souligner ce qu'a été cette campagne en termes de violence, d'invectives, d'injures. Les Américains n'ont pas du tout écouté leurs élites, n'ont pas du tout écouté les médias dits de référence, n'ont pas du tout écouté la société civile, les corps organisés, les syndicats, etc. Paul Berman, dans un papier récent, le soulignait. Je crois que ça, c'est très préoccupant. Et dans le même temps, on a vu se développer des vecteurs de discussion, d'information qui sont absolument dérégulés. Les réseaux sociaux, qui sont de véritables cloaques à ciel ouvert, où les gens s'insultent. On n'a pas vu non plus ce que disait Cass Sunstein il y a 15 ans déjà, que l'Internet serait le vecteur de cocons informationnels, de communauté, d'affinité et non pas de discussion. La démocratie, ça repose sur le pluralisme, mais aussi sur la probabilité de rencontrer la contradiction, de rencontrer le pluralisme. Aujourd'hui, on ne le rencontre pas. Si vous demandez au soutien de Trump l'idée qu'ils ont des démocrates, c'est une caricature par oui-dire. Ils n'ont jamais discuté avec des démocrates et réciproquement. Donc je pense que ce dysfonctionnement de l'espace public, qui nous guette également, on risque d'avoir une campagne tout aussi violente, est vraiment de nature à nous faire réfléchir. Alors maintenant, je suis très sceptique, moi, pour ma part, sur l'espèce de théorie du rebond gnostique. Là, on toucherait le fond de la piscine et il y aurait un sursaut européen. Je pense qu'il n'y aura pas de sursaut européen. Nicole fait une moue dubitative. Je n'y crois pas un instant, malheureusement. J'aimerais le croire, mais je n'y crois pas. Ce que je vois, ce sont des Européens divisés, incapables de prendre leurs responsabilités, de se hisser à la hauteur des événements, que ce soit les Britanniques qui sont dans leurs problèmes intérieurs ou les Allemands qui n'ont jamais été à la hauteur ces dernières années de leurs responsabilités géopolitiques.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi je crois que quand on accueille ce qui s'est passé mardi, deux choses. Il y a, je trouve, un excès de sidération et une facilité abusive de la digestion. La sidération a été excessive. Alors, vous n'avez pas participé à l'émission de dimanche dernier, mais nous avions, je crois, les uns et les autres. Moi, j'avais dit qu'elle avait la poisse, qu'elle avait tout raté, et qu'on ne pouvait pas du tout exclure que cette candidate, qui avait des tas de qualités par ailleurs, ne réussisse pas. Et François avait un bilan, quand même un diplomate professionnel, et il avait bien jugulé ses propres convictions, et il avait bien montré le caractère assez incertain de tout cela. Et Padis avait expliqué que probablement elle serait élue, mais que en réalité elle perdrait la majorité au Congrès. Donc on était, il y avait une incertitude beaucoup plus grande et on avait montré que les affaires de M. Comey et les réactions qu'elles avaient suscitées étaient dans l'ensemble très ravageuses. Donc moi j'ai pas du tout été sidéré. Et quant aux sondages, on n'arrête pas de mettre en cause les sondages. Je trouve que là encore, ils se sont un peu trompés, mais marginalement. Je suis désolé, Mme Clinton a eu plus de voix que M. Trump. Ils n'ont pas mesuré, parce que les sondages, c'est pas des instruments très fins. Ça permet de mesurer des tendances, des évolutions. Ça ne permet pas de peser des rapports de force aussi étroits, et notamment l'effet prismatique. Alors, je m'étais trompé, là, en revanche. L'effet prismatique du fait que M. Trump était populaire dans les petits États donc où il y avait une surreprésentation relative de délégués par rapport aux grands États de l'Est, de la côte Est et de la côte Ouest, ça, ça a eu un effet important. Donc il faut arrêter. L'Amérique est divisée et il n'y avait pas de quoi cette sidération absolue, tout le monde, ça, c'est une espèce de bulle journalistique qui est née, de plus avec des commentaires à la télévision. J'ai passé ma nuit blanche à écouter, à regarder les résultats, et j'ai été frappé du manque de professionnalisme des commentateurs qui n'arrivaient pas à faire des additions convenables de délégués, etc. C'était pas très sérieux, nos commentaires. Donc on a dramatisé, on a dit c'est impossible. Alors pourquoi cette sidération? Alors cette sidération, elle tient au fait que nous avons très bien, nous étions exactement, Nicole, dimanche dernier, sur la même ligne que vous et que Thierry, en disant qu'il y avait un immense traumatisme, un immense ébranlement de l'ensemble des puissances européennes, atlantiques, occidentales et même pacifiques, quand on voit ce qui se passe, par exemple, aux Philippines, qui est quand même un événement assez prodigieux. Eh bien, tout cela a créé quelque chose de très angoissant. Pourquoi a-t-on été sidéré? Parce que, au bout du compte, nous n'avons jamais pensé que quelqu'un, moralement, nous avions une censure morale, nous n'avons jamais pensé que quelqu'un qui disait des choses aussi horribles pourrait être élu. Nous avons pensé qu'il n'était pas possible d'injurier les femmes comme il l'a fait. Nous avons pensé qu'il n'était pas possible de dire, comme il le disait au début de sa campagne, les ouvriers, je les connais, j'en ai vidé des milliers. Des phrases aussi provocatrices que ça pourrait passer, qu'on ne pouvait pas retrancher des pans entiers de la collectivité nationale américaine sans que ça ait des conséquences importantes. Que tout cela était tout simplement impossible. Et moralement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous.
Nous avons pensé que tout ça n'était pas possible, mais nous ne nous sommes pas trompés.
Comment ? Oui, non, mais c'est... Non,
il me semble quand même que la taille de l'erreur, vous venez de la décrire vous-même, elle est extraordinaire. De l'effet.
Oui, mais je parle de l'effet de sidération. Nous avons écoutez, je l'ai dit, nous en sommes aperçus avant, Philippe. J'ai dit, dimanche dernier, j'ai fait ce discours. J'ai dit, pourquoi nous n'avons pas vu venir Trump à cause de cela ? À cause de cela, parce que nous avions une censure morale. Mais cette censure, elle avait éclaté de bien avant. Et donc, nous étions en fait, à deux jours des résultats, nous avions compris, en réalité, que Trump pouvait gagner. On avait compris, on s'est reconstruit mardi.
Je ne voulais pas chercher à nous dédouaner, personnellement, je pense qu'il n'y a pas lieu. Mais je voulais surtout, puisque vous avez, je crois, très bien décrit ce que vous avez appelé cet empêchement moral, enfin cette incapacité morale à voir les choses, je voulais simplement attirer l'attention sur le fait que si nous l'avions, nous l'avons peut-être encore, et que si nous l'appliquons à d'autres situations, notamment à la situation française, il va peut-être falloir qu'on se mette à ramer beaucoup intellectuellement et politiquement.
Ce que je voulais dire, ce qui me gêne dans le discours de Nicole. Nicole dit, ça prouve, c'est la faillite des élites. C'est parfaitement vrai que le discours des élites a été un discours complètement rejeté. Est-ce que ce discours était mauvais? Est-ce que le fait de parler de solidarité internationale, de défense de l'état de droit, de respect des minorités immigrées, de défense de la protection sociale, est-ce que c'était mauvais? Je ne le crois pas. Et en réalité, ce qui m'effraie dans cette affaire, ce n'est pas Trump. Parce que Trump, c'est un politicien médiocre, un homme de télé-réalité, de spectacle, qui a utilisé avec beaucoup de talent quelque chose. Ce qui me sidère, alors là, m'impressionne beaucoup, c'est que c'est que le peuple américain ait pu se reconnaître avec une courte majorité, heureusement, ait pu se reconnaître dans des valeurs aussi fondamentalement inadmissible. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est... face à la réaction difficile des classes moyennes, je comprends très bien tout ce que vous avez dit l'un et l'autre sur la difficulté des classes moyennes, il y avait deux réactions possibles. La réaction Bernie Sanders et la réaction Trump. Eh bien, la réaction majoritaire du peuple américain, ça a été une réaction Trump, ça n'a pas été une réaction Bernie Sanders, même si la réaction Bernie Sanders existe. Or, moi, je comprends l'attitude des gens qui votent Bernie Sanders, je suis épouvanté, comme dirait Léon Blum, après un discours d'Adrien Marquet, je suis épouvanté par les gens qui pensent comme ce que dit M. Trump.
Vous me faites penser à cette histoire que m'a racontée Lincoln du pasteur qui dit « Je pourrais faire mes sermons plus courts, mais une fois que je suis lancé, j'ai la flemme de m'arrêter. » Thierry Pêche.
C'est vrai.
Non, on a des divergences d'appréciation aujourd'hui très claires sur ce qui s'est passé aux États-Unis et sur notre incapacité à le voir et l'anticiper. Mais Jean-Louis soulève une question importante qui est les démocrates en face de Trump étaient-ils si mauvais que ça? Leur discours était-il si répréhensible? Bien sûr que non, il a raison. J'ajouterais même que les élites contre lesquelles les Américains ont voté sont tout de même celles qui sont au pouvoir depuis 8 ans et qui ont ramené la croissance, le chômage au niveau du plein emploi, qui ont fait l'assurance maladie. Alors on se dit, mais pourquoi est-ce que les gens modestes ont voté contre ça? C'est leur intérêt. Ils ont voté d'une certaine façon contre leur intérêt. C'est ça qu'on se dit spontanément. Sauf que tout ça est balayé par une vague qui est beaucoup plus profonde. Ça vient de beaucoup plus loin. Et Obama l'avait bien dit. Il avait dit, pour refaire l'unité de l'Amérique, il faudra beaucoup de temps. Je ne sais plus quelle expression il avait utilisée, mais il disait c'est l'affaire de 10 ans, de 15 ans, c'est pas... Et donc ce problème, il vient de beaucoup plus loin, il faut regarder les choses en face. Et ça, on ne les a pas regardées d'assez près. Moi, j'ai essayé de temps en temps, parce que j'étais sceptique sur un certain nombre de bonnes nouvelles qui arrivaient d'Amérique. Le chômage reculait, mais le taux d'activité ne progressait pas tant que ça, par exemple. Bon, il y avait beaucoup d'évictions du marché du travail. Et puis on sait bien que les salaires plafonnaient, et puis que l'endettement privé des ménages a été dopé par des croyances incroyables dans les années de la mondialisation financière débridée. Donc tout ça finit par se payer et se paye dans, effectivement, une erreur probablement historique puisqu'on se met dans les bras d'un type qui risque de faire absolument n'importe quoi, qui dit qu'il veut baisser les impôts, faire des grands travaux, tout ça n'a aucun sens, aucune cohérence.
Nicolas Desautos.
Oui, sur ce que disait Jean-Louis, bien sûr Jean-Louis qu'on a raison d'être des démocrates, de défendre des valeurs, de défendre des principes moraux, mais on a tort d'avoir perdu l'influence sur les gens, tout simplement. Donc il faut falloir quand même qu'on réfléchisse à cet échec historique où notre raison n'arrive pas à être plus forte que la passion des peuples et on est dans une phase de mondialisation des colères, en tout cas dans le monde industrialisé. Dernier point, quand vous regardez les trois premières puissances du monde aujourd'hui, la Chine, la Russie, les États-Unis, elles sont dirigées aujourd'hui par des hommes qui ne sont pas des démocrates. Et je maintiens qu'il y a véritablement là un appel au secours. Il faut que les démocrates, que la démocratie se mobilise. Aujourd'hui, en Europe, c'est Madame Merkel qui se retrouve la chef du monde libre et que l'OTAN est dirigée par deux dictatures, Monsieur Trump et Monsieur Erdogan. Donc c'est quand même assez inquiétant.
François Bujon de l'OTAN.
Trump n'est pas une dictature et il ne dirige pas encore l'OTAN. Mais je voudrais simplement revenir sur ce que disait Thierry. Ça vient de très loin, c'est vrai. Et une des faillites, alors là pour le coup de tout le monde, c'est de ne pas avoir mesuré à quel point ça vient de loin. Simple témoignage, j'étais ambassadeur aux États-Unis à l'époque des Clinton, enfin pendant 5 ans de l'administration Clinton notamment. À l'époque, Clinton avait laissé les États-Unis à la fin de son administration en parfait état de marche, avec même un excédent budgétaire dont on se prend à rêver aujourd'hui. On a oublié ça. Mais on disait déjà, et c'était un des grands sujets, que cette prospérité cachait un accroissement des inégalités qui était très très préoccupant et le fait qu'une grande partie des Américains n'avaient pas bénéficié des fruits de la culture. C'était il y a 20 ans. Et au fond, les choses se sont amplifiées depuis lors, mais l'origine du phénomène est ancienne. J'ajoute aussi une autre chose sur le discrédit du système, c'est que les sondages américains mesurent depuis des années le fait que les Américains rejettent le fonctionnement du système. Et le fonctionnement antagoniste, le blocage des institutions produisent un fort effet de rejet chez les Américains. Quand le Pew Center donne, par exemple, que le taux d'approbation du Congrès dans l'opinion américaine est de 12%, ce n'est pas aujourd'hui, c'était il y a un an avant les élections. Donc tout ceci vient effectivement de loin.
Je vous remercie. Revenons en France, comme on dit à la télévision, où nous avons aussi une élection primaire qui se profile. Les candidats à cette élection, la primaire de la droite et du centre, ont débattu pour la deuxième fois le 3 novembre. 2 900 000 téléspectateurs ont regardé ces 7 prétendants, 6 hommes et une femme, débattre de l'immigration, de la réforme des institutions, de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, du rapport des Républicains avec le centre et le Front National et de l'éducation. À propos de l'immigration, tous les candidats proposent l'abrogation ou la renégociation de l'espace Schengen. Ils demandent la transformation ou la suspension du regroupement familial et, à l'exception de Jean-Frédéric Poisson, l'établissement de quotas annuels d'immigrés. Jean-François Copé et Alain Juppé critiquent les accords du Touquet, signés durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Nathalie Kosciusko-Morizet insiste sur la distinction entre migrants économiques et réfugiés, ces derniers ayant à ses yeux le droit d'être accueillis en France. Tous les candidats s'accordent sur l'importance d'un renforcement de la sécurité. Il propose à cette fin une réforme de la police, la création de 10 000 à 30 000 places de prison et l'augmentation du budget de la défense. Tous les candidats, sauf François Fillon, se sont exprimés sur la nécessité d'une réforme des règles de la légitime défense. La présomption de légitime défense a été défendue par Nicolas Sarkozy et Jean-Frédéric Poisson. Alain Juppé, Jean-François Copé, Nathalie Kosciusko-Morizet proposent de donner à la police le droit d'utiliser l'arme à feu après sommation, comme c'est actuellement le cas pour la gendarmerie. Le 23 octobre, 165 élus de droite proches de Nicolas Sarkozy ont publié un appel pour une véritable alternance dans le journal du dimanche. Le compromis politique avec Bayrou, soutien d'Alain Juppé, y était dénoncé comme vecteur d'alternance molle. Durant le débat, Nicolas Sarkozy a réitéré ses attaques contre un centre qui demande nos voix pour se faire élire à Pau, mais qui n'a pas soutenu la droite dans la motion de censure contre François Hollande. Alain Juppé a répondu qu'une séparation avec le Modem serait suicidaire, car elle assurerait de nombreuses voix à Marine Le Pen. Le premier tour de cette primaire a lieu dimanche prochain. Divers sondages ont été publiés, mais je ne sais pas pourquoi je ne vais pas citer de sondage aujourd'hui. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange.
Oui, c'est une affaire assez intéressante. Je pense qu'il y a une assez grande difficulté de la part des électeurs, une assez grande hésitation en tout cas, sur le comportement prévisible des électeurs de droite et du centre. En réalité, j'hésite entre deux comportements possibles de cet électorat. Le premier, c'est de dire c'est sans doute le tour le plus décisif de l'élection présidentielle, donc on va y aller. On va aller voter. Bon. En même temps, je sens bien que la bourgeoisie française, notamment la bourgeoisie de province, n'est pas habituée à ce genre de choses. Elle a l'habitude qu'on lui donne un chef, elle n'a pas l'habitude de le choisir elle-même, elle n'a pas les mêmes réflexes de ce point de vue-là que la gauche, et il y a une certaine difficulté d'acculturation qui, à mon avis, pourrait entraîner des petits retards à l'allumage, notamment le 20 novembre. Je pense qu'en revanche, la vraie mobilisation des électeurs de la droite et du centre se fera dans la perspective du second tour, s'il y a véritablement une incertitude entre Juppé et Sarkozy. Sur le fond, je pense que toutes ces histoires de programme, personne n'y comprend rien. Et ce n'est pas des débats avec tous ces personnages qui parlent chacun deux minutes. Il faut parler un peu longtemps pour être compris. Vous voyez, c'est ça le problème, Philippe, dans la vie. Tous ces personnages. J'essaie d'être
détail.
Vous savez, je suis un pédagogue. Hein, j'ai été prof. Hein, la pédagogie ne va pas sans répétition.
Comment est-ce que vous traduiriez pro domo?
Et le problème, c'est que au-delà de ces différences idéologiques, je crois qu'il y a un choix très central, qui est de savoir si, par-delà l'impossibilité d'une alliance avec Le Pen, l'offre politique de la droite doit être une sorte de dissolution, si je puis dire, des thèmes du Front National dans la droite classique, ce dont Sarkozy est profondément porteur. Il dit il faut assumer l'offre du Front National, et il le dit quand on voit la réaction sur Trump, il dit ça prouve que on dénonce et les gens ne veulent plus de pensée unique. Alors il ne dit jamais ce que c'est que la pensée unique, mais il est contre, et ça désigne à la fois Clinton et Juppé. Donc il se met en fait objectivement dans la situation de l'héritage du trumpisme. Et puis l'autre choix, c'est le choix de Juppé, parce que ça se ramène à ça. Le reste, les gens peuvent se faire plaisir en votant pour le maire, pour Fillon, etc. Mais le seul choix, c'est Sarkozy ou Juppé. Le choix, c'est le choix d'une droite et du centre inspiré par Raymond Aron, en réalité, par les valeurs fondamentales des valeurs, d'ailleurs, qui sont très proches des valeurs de gauche, qui sont les valeurs de la droite française depuis la guerre. Et là, c'est l'alliance de la droite et du centre. Là est le clivage. Est-ce que les électeurs de droite et du centre veulent faire un virage idéologique dans le sens du protectionnisme, de l'anti-élitisme, l'anti-parlementarisme et de l'autoritarisme avec une bonne pointe de xénophobie, ou est-ce qu'ils veulent rester fidèles à l'héritage des Trente Glorieuses, de la Libération, du gaullisme, du chabanisme, du giscardisme, des choses qui ont, à mon avis, sont des valeurs absolument centrales. Donc il y a un enjeu très réel. Alors, juste un mot de conclusion. la question, c'est comment ce qui s'est passé aux États-Unis va peser sur les, parce que ça va peser sur les choix des électeurs français. Et je crois que là, on voit bien effectivement le, l'hésitation. On voit bien que Sarkozy a décidé d'assumer une forme douce, soft, on dirait en bon français, de l'héritage trumpiste, avec l'idée qu'il va clintoniser Alain Juppé, qui va considérer comme mou, terne, etc. Et là, il y a une tentative en disant « moi, je suis flamboyant comme Trump, etc. » Ou alors, est-ce qu'il va y avoir, ce que j'espère fondamentalement, parce que je suis vraiment allergique au thème trumpiste, est-ce qu'il va y avoir une mobilisation autour d'Alain Juppé de l'ensemble des thèmes qui font notre capital moral, humaniste, politique, celui des deux républiques, de la 4e République et de la 5e République, cet héritage qui, au bout du compte, est fondamentalement et simplement un héritage humaniste.
Quand vous parlez de chabanisme, pour nos auditeurs les plus jeunes, oui, c'est de Chaban-Delmas, et pour nos auditeurs les plus vieux, ça n'est pas du Chabanais. Nicole Lesotho.
Oui, alors d'abord, ce qui est clair, c'est que rien n'est joué. Et à une semaine du premier tour, tout est encore possible. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Louis pour dire que ça se réduit à un duel entre Juppé et Sarkozy. Alors, bien évidemment, Alain Juppé est en tête et l'écart entre Juppé et Sarkozy se maintient, y compris à peu près de 10 points, y compris après le deuxième débat télévisé. Mais il y a quand même trois incertitudes. Premièrement, les sondages, il faut bien en parler parce qu'ils se sont tellement trompés aux États-Unis qu'il faut prendre la possibilité de l'erreur en France. Ils se fondent sur une participation d'environ 3 millions de gens qui iront voter à Saint-Priest, mais ils n'en savent strictement rien. Autrement dit, si on est à 5 millions ou à 1 million, eh bien, on peut avoir une donne complètement différente. Il faut quand même l'intégrer. Deuxièmement, il y a l'effet troisième homme, et là, moi, je trouve que le deuxième débat a été favorable effectivement à François Fillon, qui a pris 15% de voix. Donc, il y a cet effet troisième homme qui est parfaitement possible, qui est maintenant à 15%, je veux dire, dans les sondages. L'effet troisième homme est parfaitement possible. Et troisième point, il y a l'effet Trump. Et je crois que l'effet Trump va amener l'ensemble des candidats à se repositionner différemment. Et à ce stade, ce que je prédit, c'est que l'effet Trump va être plutôt en faveur du troisième homme, c'est-à-dire de Fillon, parce que Sarkozy apparaît trop proche de Marine Le Pen, parce que Alain Juppé apparaît trop proche de ce monde absolument moral, bien pensant que la vague de fond refuse, et que donc ça peut profiter à Alain Juppé. Donc je crois que vraiment tout est possible. Deuxième point, toujours en réaction à ce qu'a dit Jean-Louis, Jean-Louis a dit on n'y comprend rien dans leur programme, ce qui est vrai. Mais ce qu'on comprend en revanche, c'est que c'est le même. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a 7 candidats aujourd'hui, mais qu'on a un seul programme qui se définit par une absence totale de vision du monde. Ce qui me frappe dans ces programmes de la droite, à la veille du premier tour, c'est qu'on a un programme d'inspiration économique d'inspiration ultra-libérale, et surtout chez Juppé, qui n'est pas un programme de centre. Sa stratégie est de ramener le centre, mais son programme est un programme de droite ultra-libérale. Deuxièmement, il n'y a aucune vision du monde, aucun discours sur la mondialisation, aucun discours sur le contexte international nouveau dans lequel cette France de 2017 devra évoluer. Il n'y a strictement rien. J'ai regardé dans le programme de, par exemple, de François Fillon sur son site internet, il n'y a même pas de case politique étrangère. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il y a une case
Poutine,
Europe, il y a une case immigration. Ça n'existe pas en politique étrangère. Il n'y a absolument aucun discours sur l'Europe. Alors, je sais bien que c'est impossible aujourd'hui de tenir un discours enthousiasmant sur l'Europe, mais ils se conduisent tous comme si le simple mot Europe leur faisait perdre déjà des voix. Je trouve que pour des responsables politiques, c'est un peu défaitiste. Il y a une droitisation très claire des thèmes de sécurité. Là, évidemment, tous empruntent à Madame Le Pen, pas seulement Sarkozy. Tous essayent de récupérer un peu cet héritage. La seule différence avec Madame Le Pen, c'est qu'ils ne sont pas contre les élites. Certains ont une réforme de la haute fonction publique, mais il n'y a pas que ce discours anti-élite. Et le grand absent de ces programmes, effectivement très technique, très technocratique, le grand absent, à part la vision du monde, c'est le social. Il n'y a absolument pas de prise en compte de ce qui a fait la victoire de Trump, c'est-à-dire le sentiment en France, comme partout en Europe, d'une injustice, le sentiment que la France s'enrichit, mais que les Français s'appauvrissent, et ça, ce n'est pas pris en compte.
Thierry Pêche.
Moi, je crois que la droite est divisée, en fait. Elle ne le dit pas, la primaire essaye de le cacher, mais elle est profondément divisée. Alors, c'est un sujet sur lequel Jean-Louis réagit souvent, je ne veux pas parler pour vous, mais en disant « non, elle n'est pas si divisée que ça, au fond ». On est très généreux sur la division de la gauche, on l'est moins sur la division de la droite. Néanmoins, cette division est réelle. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien illustré, Jean-Louis. Mmh. Sur les questions de société, en particulier, sur l'immigration, sur le rapport à l'état de droit, sur les questions de sécurité... Il y a une droite dure, il y a une droite forte, il y a une droite nationale qui un jour sera en capacité, je pense, de faire des alliances avec le Front National parce que la proximité est très étroite. Et puis, il y a une droite modérée, centriste, qui est celle que, je crois, vous appelez de vos voeux dans cette primaire, qui gouverne sur des bases qu'on connaît, qu'on peut juger progressistes de droite. Bon, voilà. Cette division, elle est très forte. Et elle va peut-être pas s'exprimer tant que ça dans la primaire, mais elle risque de s'exprimer après la primaire, dans des équilibres qui seront plus ou moins boiteux, dans des formes de déloyauté peut-être aussi aux vainqueurs de la primaire. Il y a quelque chose là qui est une plaie, qui n'est pas refermée, qui au contraire tend à s'écarter. Et l'élection de Trump va jeter de l'huile sur le feu, évidemment, parce que Sarkozy l'utilisera pour dire, un, les sondages, vous voyez, c'est pas fiable, et il a peut-être pas tort, parce qu'en effet, on sait pas bien mesurer les équilibres, les rapports de force dans une primaire. Deux, la pensée unique a été battue en brèche, et moi, je parle au même type d'électeurs que Trump le faisait, et ils vont m'entendre, et la ferveur va les porter aux urnes, et vous allez voir ce que vous allez voir. Et je pense que Sarkozy peut gagner. Voilà. Ce que je ne pensais pas il y a une semaine. Je pense qu'il peut gagner aujourd'hui. Bon. Et il faut l'avoir en tête. Alors, est-ce que les électeurs de la primaire préféreront les alcools de la trumpisation façon française ou les douceurs un peu compassées de cette maison fondée sous Jacques Chirac que représente Alain Juppé dans toutes les dimensions de son programme? On verra. Mais le jeu n'est absolument pas fait et cette droite est profondément divisée.
François Bujon de l'Étang.
Plusieurs remarques rapides compte tenu du peu de temps qu'il nous reste. Le premier, c'est que l'incertitude maximum pour cette primaire de la droite, c'est évidemment la participation. C'est ça qui va tout déterminer. Est-ce qu'il y aura 1 million, 3 millions d'électeurs? Personne en réalité n'en sait rien. Et ceci donne au sondage, quel qu'il soit, une assise tellement incertaine qu'on ne peut pas leur faire confiance. Si vraiment la participation est de 3 millions, comme l'escomptent certains, c'est vrai que les chances de Juppé sont infiniment plus fortes que si elle n'est que d'1 million, où les chances de Sarkozy sont évidemment beaucoup plus grandes. Donc l'incertitude est totale là-dessus, puisqu'il n'y a pas de précédent. Ce sont les premières primaires de la droite, on l'a assez dit, notamment à cette antenne. Les primaires sont quelque chose qui est contraire à l'ADN de la droite, c'est très nouveau, et nous sommes par conséquent largement dans le brouillard. Deuxièmement, je ne pense pas vraiment que les divisions de la droite soient aussi fortes que le dit Thierry Pech. Je ne le crois pas du tout. Il y a des divisions, bien sûr. Il y a d'abord une division, il y a des stratégies complètement différentes. Il y a la stratégie de Sarkozy qui est à droite toute et qui consiste à aller, comme en 2012 d'ailleurs, tenter de récupérer des voix chez Marine Le Pen, en mettant l'accent, bien entendu, sur les sujets sécuritaires et identitaires. Et puis, il y a la stratégie d'Alain Juppé, qui est complètement différente, qui est une stratégie de rassemblement, qui consiste à aller chercher, non seulement la droite et le centre, mais aussi les déçus du hollandisme, comme il le dit lui-même. Ça, ce sont des divergences stratégiques fortes. Mais sur le fond, d'abord, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de difficultés dans la droite, comparable à celle de la gauche, à se rassembler derrière le candidat qui sortira vainqueur des primaires, d'une part. Et ensuite, quand on regarde les programmes, il y a notamment dans le domaine économique un très fort socle commun entre ce que disent... Et là, je m'élève contre le côté totalement caricatural de ce qu'a dit Nicole sur les programmes de la droite, qu'elle qualifie d'ailleurs, selon la vulgate, d'ultra-libéraux, puisqu'en France, on n'a jamais le droit d'être libéral, on est forcément ultra-libéral, ce qui immédiatement est une accusation. Il y a un socle commun, en effet, dont on voit très bien toutes les principales caractéristiques. La valeur travail est mise en avant, une espèce de réhabilitation du travail, avec ce que ça entraîne sur le plan du dialogue social, de la diminution du pouvoir syndical, etc. L'entreprise qui est centrale, avec tout ce qui touche à la productivité des entreprises, la baisse des impôts, la baisse des dépenses publiques, enfin, tout ceci
tout
est
ça
un
vous paraît
socle.
Pas comment... Le recul des pouvoirs syndicaux, ça ne vous paraît pas ultralibéral?
C'est un socle commun. Ah ben écoutez, je ne crois pas que ce soit ultralibéral. Ce qui serait ultralibéral, ce serait un recul du dialogue social, et notamment du dialogue social au sein de l'entreprise. Le blocage du dialogue social par le pouvoir syndical est un vrai thème en soi. C'est un vrai thème, il est posé. Bon. Voilà, je ne l'ai pas terminé, mais on ne termine jamais, bien entendu. De toute façon, c'est le primaire dimanche prochain qui terminera.
J'étudie les tactiques des uns et des autres. Celle de François consiste à dire « je vais être très bref au début », celle de Jean-Louis consiste à dire « je serai très bref à la fin ».
Et finalement, nous sommes aussi longs l'un que l'autre.
Oui, non, un point sur lequel nous sommes d'accord, je crois, c'est que les sondages ne sont pas en mesure de dire qui va gagner pour des raisons. La variable principale, c'est celle qu'a rappelé François, le niveau de participation. La seconde variable, c'est qu'on ne sait pas très bien qui est pour. Une participation limitée, ça favorise Sarkozy parce que ça favorise les activistes, comme on dit aux États-Unis, les militants, mais en même temps, ça favorise le vieil électorat civique, qui est un électorat haut de gamme sur le plan de la formation et d'âge mûr, qui est plutôt favorable à Juppé. Donc c'est tout ça est extrêmement difficile à mesurer et je crois. Alors là où je suis d'accord avec Thierry, c'est que je pense que ce qui s'est passé aux États-Unis renforce, d'abord accentue un peu les divisions à l'intérieur des droites. Je suis d'accord avec vous, sans aller jusqu'à la rupture que vous... Je crois qu'il y a une tension quand même entre un électorat qui est tenté, une offre politique sarkozienne qui est tentée par certains aspects du trumpisme, et un électorat qui est une offre politique, qui est celle de Juppé, qui est plus tentée par la modération, la réconciliation, la synthèse. Mais je crois que il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette affaire, et je crois que là, je prends une position centriste. Ce n'est pas vrai, cher Thierry, que ces mouvements soient incompatibles. Ce n'est pas vrai, cher Nicole, que c'est la même chose. Le protectionnisme, c'est quelque chose de très important. C'est quand même, il y a une inégalité de tempérament. Le poutinisme, vous êtes favorable, vous êtes favorable dans vos pronostics à l'idée, à l'émergence de Fillon. Fillon tient sur les rapports avec la Russie un discours comme Sarkozy d'ailleurs, qui est assez profondément différent de celui de Juppé. Sur l'Europe, Fillon ne dit rien. Juppé est un homme qui, fondamentalement, ça apparaît, estime qu'il faut absolument reformer le couple franco-allemand, et il a d'autant plus raison après les événements qui se sont produits outre-Atlantique, car il est évident que s'il y a une réaction européenne, elle sera difficile, laborieuse, compliquée, mais quand même le défi est plus fort qu'avec le faux défi du Brexit, et ça passera par une renaissance du couple franco-allemand. Donc vous avez des enjeux qui sont différents, mais c'est pas parce qu'on ne s'étripe pas qu'on ne se distingue pas.
Nicole Niesoto.
Juste un point, oui, pour bien clarifier, je ne suis pas favorable à François Fillon. J'ai dit qu'il y a deux éléments qui rendent sa candidature plus sérieuse. C'est un, le deuxième débat où il a effectivement marqué des points. Et deuxièmement, la victoire de Trump. Et il me semble que ça représente quelque chose qui peut rentrer en écho avec l'électorat français. Deuxièmement, sur le programme ultra-libéral, je veux bien l'appeler libéral si vous voulez, mais enfin, je les trouve d'ailleurs tous assez courageux, tous ces candidats de droite, de proposer la retraite à 67 ans, la fin des 35 heures, la suppression de l'ISF, la baisse des impôts sur les entreprises, tous, ce qui sont quand même les thèmes les plus impopulaires qui soient aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui, et qui sont des thèmes sur lesquels ne se feront pas les élections. Ça, je crois que les élections se feront sur un thème de justice sociale, de répartition des fruits de la richesse, de la mondialisation. Et ce thème-là, pardonnez-moi, Louis François, moi je ne l'ai pas vu dans le programme des candidats. Dernier point, simplement pour dire que, la transition sur une future émission peut-être, que cette primaire de droite, ça sera le début de la primaire à gauche, évidemment, puisque le président avait dit qu'il attendrait la fin de l'année, et donc il attend bien évidemment de voir qui va sortir gagnant de ces élections pour se prononcer ou pas, ce qui n'est pas insignifiant.
Thierry Pêche.
Oui, alors je voudrais répondre à François sur deux points. Le premier, c'est qu'il nous dit Il n'y a pas de division de fond de la droite, il y a une division des stratégies. Mais vous savez, les stratégies, c'est comme la forme. Victor Hugo disait, la forme, c'est du fond qui remonte à la surface. La stratégie, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que l'empreinte des stratégies, dans les débats de demain, elle sera fondamentale et pérenne. Quand vous vous comportez comme Sarkozy, vous appelez à la barre du débat politique une partie de la société qui restera dans le débat. Et la division, elle est là. C'est aussi une division sociologique. Donc moi, je ne crois pas à cette chanson qu'évidemment, dans la primaire, on a envie de pousser, qui est de dire, bah voilà, on va tous s'unir autour d'un candidat, finalement, on a un socle commun. C'est pas vrai. C'est vrai sur les questions économiques. Le socle est commun, ça, il n'y a pas de doute. En revanche, sur les questions de société qui vont être beaucoup plus présentes dans la campagne que les questions économiques, dont aujourd'hui, tout le monde se moque, pour dire les choses clairement, bon. Deuxième point, ultralibéral ou pas, moi j'étais plutôt pour la loi Larcher par exemple, de dialogue social, on aura appelé ça peut-être une loi libérale. Bon, en revanche je suis très hostile à cette idée qu'il faudrait se passer des syndicats, ça c'est du réganisme et ça pour moi c'est de l'ultralibéralisme en effet.
François Bujon de Béton.
De Reagan, je passe à Trump et à l'effet Trump, parce que l'effet Trump, nous commençons à peine à le sentir et nous ne l'avons pas du tout mesuré. On pouvait déjà le voir dès mardi en écoutant les réactions de Sarkozy puis de Juppé à la victoire de Trump. Le contraste était absolument saisissant. Sarkozy, dans un texte qu'il lisait, qui était rédigé, qui était très attentif, s'appropriait bien entendu les effets de la victoire de Trump et faisait ressortir que Trump, c'était la victoire de l'homme fort, finalement, et qu'il allait y avoir aux États-Unis un pouvoir fort face auquel il faudrait, bien entendu, pour pouvoir tenir la dragée haute aux Américains, des hommes forts. Suivez mon regard, c'était le discours de Sarkozy, il était simple. Celui de Juppé était très différent, il était beaucoup plus soft, pour reprendre le mot classique de Franglais, et il insistait sur les valeurs humanistes qu'il allait falloir effectivement chercher à défendre face à ce qu'incarnait M. Trump. C'est tout à fait intéressant. Mais je suis convaincu que l'effet Trump va jouer très très fort en faveur de Marine Le Pen et du Front National et au sein de la primaire de la droite, au bénéfice de M. Sarkozy qui cherche déjà à se l'approprier.
Vous avez fait un lien entre Donald Reagan, entre Reagan et Trump.
Donald Reagan est en effet.
Mais ça me rappelait la causticité de Gore Vidal qui disait de Reagan. Ça n'est pas qu'il se teint les cheveux, c'est qu'il les a prématurément orange. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je commence par rappeler donc que dimanche prochain, l'émission est en direct et en public, que toutes les personnes qui veulent y assister, ils sont les bienvenus. Il leur suffit de s'inscrire sur le site www.maisondelaradio.fr. Et puis je voudrais pour donner à ceux qui ont de l'Amérique une idée différente de l'image qu'elle a donnée ces derniers temps, recommander la lecture de l'autobiographie de Bruce Springsteen, qui est intitulée en français « Born to Run », que certains reconnaîtront d'où vient ce titre. Elle est publiée chez Albin Michel. C'est une vie forte. C'est la vie de, on pourrait dire presque que c'est la vie d'une forme de héros américain. Et ce héros américain est un héros qui ne se définit pas par l'écrasement des autres, mais par la lutte, et quelquefois par la lutte contre lui-même et par la lutte contre ce que Winston Churchill appelait son Black Dog. Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi je voudrais recommander un livre qui vient de paraître de Benedetta Craveri, qui est une intellectuelle italienne de grande élégance, spécialiste du 16e, du 17e et du 18e siècle. C'est accessoirement la petite fille de Benedetto Croce, le grand intellectuel italien, qui s'appelle Les Derniers Libertins et qui propose le portrait de 7 aristocrates de la fin du 18e siècle qui ont eu des destins tourmentés et pour l'essentiel broyés par la Révolution française et l'Empire et qui méritent quand même le détour. Ce sont des, alors d'abord, Les Derniers Libertins, là on voit toute l'originalité fondamentale du libéralisme, auquel vous savez, cher Philippe, que je suis très attaché, dans sa triple dimension culturelle, le terme ordinaire de libertin, sa dimension politique, le régime représentatif, et sa dimension économique, le droit de chacun à apporter à la société ce que ses talents personnels lui permettent d'apporter. Bon, eh bien là, on voit, ce sont des privilégiés qui sont broyés par ce privilégié de la naissance, privilégié de l'esprit, privilégié de la générosité privilégiée de la culture, des êtres assez admirables et qui sont effectivement complètement détruits par la phase révolutionnaire. Victor Hugo avait un mot pour décrire leur situation en disant, en parlant de la révolution comme d'un monstre, d'un lion, il avait dit « la patte du lion creva cette pantoufle ». Et je crois que c'était une expression assez juste. Alors, il s'agit des Ségur, du comte de Narbonne, du chevalier de Boufflers, du duc de Brissac. Alors, Lauzun, le duc de Lauzun, qui sous le titre de Biron est devenu général de la Révolution et donc est mort de mort naturelle sous la Révolution, c'est-à-dire guillotiné. Les autres se sont plus ou moins ralliés, quatre d'entre eux, à l'empereur, avec plus ou moins notamment les Ségur. Certains, Vaudreuil et Brissac, sont restés fidèles à Louis XVIII. Tous étaient porteurs d'immenses espérances. Aucun n'a pu les réaliser et ils méritent ensemble notre souvenir, notre respect. Et Benedetta Craveri a bien eu raison de les exhumer.
Thierry Pêche. Moi, je voulais recommander la lecture d'une tribune qui est assez courte, qui est parue dans le New York Times deux jours avant l'élection américaine, tribune de Mark Lilla, politiste, écrivain, historien des idées en particulier. Une tribune qui s'intitule, si je la traduis en français, « Notre temps réactionnaire, notre âge réactionnaire ». Et Mark Lilla met bien les points sur les i, si j'ai envie de dire. Il dit « Finalement, la politique a été conduite par l'espérance depuis des décennies, et ça a produit des révolutionnaires. Aujourd'hui, elle est conduite par le regret et la nostalgie, et c'est ça la pensée réactionnaire. Elle est conduite par la quête du paradis perdu, et la quête du paradis perdu, c'est le chemin plus sûr pour aller en enfer.
François Bujon de l'Étang.
Et en ce jour du 13 novembre, où nous avons tous à l'esprit l'attaque terroriste de l'année dernière de Bataclan, je voudrais recommander la lecture du livre de Jean-Louis Bruguière qui vient de sortir, l'ancien juge terroriste Jean-Louis Bruguière, l'intitulé « Les voies de la terreur ». Chez Fayard, pardon, juge antiterroriste, bien entendu. C'est un livre extrêmement intéressant par son contenu historique, parce qu'il fait très très bien le lien entre toute la géopolitique qui est derrière la constitution des réseaux terroristes en Occident. Il analyse comment ceux-ci se sont constitués, comment par exemple l'Afghanistan et les guerres successives d'Afghanistan ont été le creuset d'Al-Qaïda, puis le creuset de ce qui est devenu plus tard Daesh. Le livre est extrêmement éclairant sur le plan historique. Il est très intéressant pour expliquer la genèse du djihadisme et je pense qu'il vient à son heure.
Nicole Nézotto.
Moi, je vais parler de l'exposition du musée d'Orsay consacrée au Second Empire, intitulée Spectaculaire Second Empire, que vous pouvez voir jusqu'au 15 janvier 2017. Alors, le musée d'Orsay s'est fait une spécialité de grandes expositions qui ne sont pas consacrées à un peintre ou à un courant artistique, mais à un thème, une époque. L'année dernière, on avait eu une grande exposition sur la prostitution, Splendeur et misère, les images de la prostitution. Cette année, on a donc le Spectaculaire Second Empire, et c'est une très bonne idée. Moi, je recommande cette exposition. On voit de très belles choses, des Manet, des Courbet. Il y a aussi quelques pompiers tout à fait fascinants, que moi j'aime beaucoup. Mais je voulais simplement dire qu'il faut y aller avec son appareil critique. Ce que je regrette, c'est que dans cette exposition, il n'y a absolument aucun appareil critique, aucune référence d'ailleurs à la littérature, et que le Second Empire nous est présenté comme le paradis perdu, alors que quand même, on sait tous que ça s'est terminé par la défaite à Sedan. Et donc, amenez votre Victor Hugo, amenez votre Zola pour voir cette exposition sur Napoléon le Petit.
Apportez, après l'avoir téléchargé, la série de la fabrique de l'histoire qui a été faite à partir sur le Second Empire, à partir de cette exposition. Vous y trouverez tout ce que Nicole a déploré de ne pas trouver ou a regretté de ne pas trouver dans l'exposition elle-même. Voilà. Je vous avais rendez-vous avec Alain Crugère pour On ne parle pas la bouche pleine et c'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathieu Farizier, avec à la technique Valérie Lavalard. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne et peut-être même au studio 105 de la Maison de la Radio pour ceux d'entre vous qui voudront assister à cette émission en public et en direct.